franceinter.fr.
Carnet de campagne, bonjour. Les carnets bouclent la semaine dans la Somme avec deux derniers candidats. Mathilde Dussard, d'abord, coordinatrice des projets agricoles pour l'association Copasol Picardie à Amiens. Ce collectif pour une agriculture solidaire a formalisé un programme d'accompagnement régional à l'installation. Autrement dit, elle aide sur la durée les créateurs et repreneurs d'activités agricoles. Loin d'être accessoire, le collectif a accompagné en 2015 l'installation de 87 projets. Un article dans les pages numériques de La Vie, on dit plus sur ce travail soutenu par la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. En seconde invitée, Ghislaine Desmarie, musicienne et fondatrice de l'association Amuséon, qui redonne vie à la cornemuse picarde, le pipasso. Et puis un mot sur le safran, non pas l'épice, mais la scène conventionnée d'Amiens, qui fait un beau travail d'ouverture à la culture et aux arts dans les quartiers nord de la ville. Des quartiers monde, comme on les appelle, avec une centaine de nationalités pour 30 000 habitants. À force d'ateliers gratuits, de répétitions publiques, de rencontres avec les artistes, d'apéros musicaux, de cycles de conférences et d'initiations à l'histoire de l'art, le Safran a développé un esprit maison partagé par le grand public et principalement par les habitants de ces quartiers dissensibles. Vous allez trouver des liens avec le Safran à nos pages d'émission.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Mathilde Dussard, bonjour.
Oui, bonjour.
Mathilde, vous présentez l'association Copasol Picardie à Amiens. Vous êtes coordinatrice, accompagnatrice de projets agricoles. Copasol se traduit par collectif pour une agriculture solidaire, créé en 2011 à partir avec l'association biologique de Picardie, la FAMAP, la Fédération des AMAP de Picardie, et terre de liens. Aujourd'hui, quand on parle d'accompagnement, d'installation, d'une nouvelle agriculture, l'accompagnement, je pose à chaque fois la question, ça signifie quoi dans votre démarche à vous?
Alors, l'accompagnement, c'est un acte, je vais dire, pédagogique. C'est-à-dire qu'on va pas donner du savoir à la personne, mais on va essayer d'aider la personne à prendre conscience des savoirs, à essayer de savoir ce qu'elle souhaite, savoir ce qu'elle sait et ce qu'elle ne sait pas pour mettre en œuvre son projet. Et on va l'accompagner à acquérir justement du savoir supplémentaire.
Mais alors, attendez Mathilde, ça veut dire que les personnes qui viennent vous voir tout au long de l'année, qui ont un projet agricole, mais ce projet n'est pas vraiment très affiné?
Non, alors en fait, les personnes qui viennent nous voir sont à tous les stades de projet. Il y en a qui sont vraiment en pré-émergence, donc qui souhaitent s'installer, mais qui ne savent pas encore quelle production faire, qui n'ont pas forcément de terre. Mais par contre, il y a des personnes qui viennent nous voir et qui ont besoin d'un accompagnement plus administratif. Du coup, c'est très différent suivant les profils.
Mais alors, vous les orientez vers certaines productions, sous quelles conditions et à partir de quels critères ?
On les aide à découvrir les productions qui vont le mieux leur correspondre. Donc c'est parfois des tests, ça nécessite parfois des formations ou parfois ça nécessite d'acquérir de l'expérience. Donc par exemple en allant travailler chez des producteurs qui font différentes productions pour choisir laquelle va le mieux correspondre au profil de la personne.
Alors c'est un immense soutien que vous apportez parce qu'il y a une aide individuelle avec un conseiller, des aides collectives avec des formations, ça se fait tout au long du parcours de création, mais jusqu'à 3 ans après l'installation.
Oui, on essaye de s'assurer de la viabilité du projet et les 3 premières années après l'installation sont parfois des années délicates, donc on essaye de s'assurer qu'il n'y a pas de difficultés particulières et d'y remédier avant qu'il ne soit trop tard.
Et Mathilde, vous avez plus de créateurs que de repreneurs ?
Effectivement, on a, je vais dire, les 2/3 des projets qui sont des projets en création d'entreprise.
Et alors, l'explosion. En 2012, 14 projets avaient été accompagnés. En 2015, vous avez suivi 87 projets d'activité agricole, agri-rurale.
Oui. Après, tous les projets n'aboutissent pas. Mais il faut savoir que c'est pas parce qu'un projet n'aboutit pas que c'est un échec. Parce que certaines personnes vont finalement s'orienter sur du salariat en exploitation agricole plutôt que sur la gestion de leur propre exploitation.
Oui. Les projets sont éminemment orienté vers l'agriculture biologique ou pas uniquement ?
pas uniquement. On accompagne tout type d'agriculture, mais c'est vrai que la plupart des projets qui sont accompagnés vont vers l'agriculture biologique et on essaye de les orienter vers cette démarche-là.
Mmh. Pour une reconversion à la bio, vous jouez aussi votre rôle d'accompagnateur ?
Mais après, on fait appel à de nombreux partenaires et sur la conversion, on est vraiment en lien avec l'ABP, donc c'est l'agriculture biologique en Picardie. C'est eux qui ont les techniciens qui vont vraiment accompagner sur la technicité de la conversion.
Alors chez vous, Mathilde, il y a une réalité, c'est que dans votre région, enfin l'ancienne région Picardie, comme on disait, région Picarde, 32% des agriculteurs bio ont plus de 50 ans, 22 ont plus de 55 ans. Il y en a un sur deux qui ne connaît pas encore son repreneur, ça c'est un véritable enjeu. Et puis, pour les nouveaux, c'est l'acquisition d'espaces de production.
Alors, c'est surtout pour les personnes qu'on appelle hors cadre agricole, c'est-à-dire ce sont des personnes qui n'ont pas de famille dans l'agriculture, oui, qui vont avoir du mal à trouver des terres, parce qu'il y a beaucoup de personnes, le foncier est très convoité.
Alors, comment fait-on, quel rôle vous pouvez jouer? Comment vous orientez ces personnes qui cherchent à trouver une terre pour accueillir et pour favoriser l'installation?
Donc, on va travailler avec notre partenaire privilégié sur le foncier, c'est l'association Terre de Liens.
D'accord.
On organise notamment une formation, par exemple, de 2 jours, où on explique aux porteurs de projets comment ils peuvent rechercher du foncier, quelles démarches ils peuvent faire, par exemple, contacter les communautés de communes ou contacter les mairies. Et on les accompagne aussi dans les démarches, par exemple, s'ils souhaitent rédiger des lettres ou présenter leurs projets à des élus de communes, on peut aller avec eux auprès des élus pour appuyer leurs demandes.
Oui. Et effectivement, les installations, hein, ça touche la polyculture, ça touche l'élevage, ça touche la production de champignons. Il y a vraiment toute une gamme. Il y a des producteurs des éleveurs d'escargots aussi. J'ai vu parmi les projets qui ont été accompagnés. Le site c'est copasol-picardie.org. Il y a également un lien avec la page Facebook qui va apparaître à nos pages d'émission. Merci Mathilde.
Merci à vous également.
Justement, pour prolonger ce que Mathilde vient de vous dire, j'ai une proposition de lecture à vous faire aujourd'hui. Le groupe coopératif d'édition Terre Vivante publie un bimestriel qui se dit 100% bio et 100% pratique, 4 saisons du jardin bio. À le lire, le slogan du 100% est atteint. Les conseils sont effectivement pratiques, ils sont expérimentés dans les jardins de la coopérative. Je vous conseille le dernier hors-série qui sort actuellement sous le titre du Retour à la Terre. Les exemples de création de micro-fermes de production en permaculture ne manquent pas. Et ce hors-série donne à lire l'entretien réalisé avec un jeune ingénieur agronome, auteur d'une thèse sur la viabilité de ces micro-fermes, principalement maraîchères et bio, Kevin Morel. On découvre que les enseignants et conseillers agricoles sont maintenant débordé par la demande. Il est question d'une lame de fond d'installation de néo-paysans. Un tiers des installés sont extérieurs au milieu concerné. Ceux-ci sont davantage des néo-ruraux portés par un appel de la terre ou un retour à la terre, même si des ruraux ainsi que quelques fils de paysans suivent la même trajectoire. Les reprises de terres de culture se justifient par les difficultés des agriculteurs à trouver des successeurs au moment de leur départ à la retraite. Et la principale activité choisie est le maraîchage. Les surfaces sont volontairement limitées et les charges de travail calculées en fonction des techniques utilisées, souvent les plus simples et les moins mécanisées, ce qui permet de lancer sa production avec un minimum d'investissement. Les revenus sont limités, eux aussi, hein, ça c'est normal. Mais l'objectif le plus souvent partagé par ces nouveaux paysans est d'atteindre raisonnablement l'équivalent d'un SMIC. La viabilité de ces micro-fermes dépendra de plusieurs facteurs comme le lien social, la qualité de vie, surtout l'élaboration d'une stratégie de commercialisation qui fait parfois défaut. Les candidats sont jeunes la plupart du temps, mais on trouve aussi des quadras ou des quinquas qui envisagent une reconversion professionnelle. Néanmoins, il existe des pionniers, Jocelyne et Pierre, qui cultivent depuis 1979 leurs légumes sur 1,2 hectare de terrain au pied du Vercors. Ils élèvent aussi plusieurs centaines de poules pondeuses dans le reste du domaine. Ils parviennent chacun à dégager un SMIC pour un chiffre d'affaires annuel de 60 000 euros. Mais à l'inverse, Olivier, lui installé depuis 2011 au sud de Nantes, loue 5000 mètres carrés de terre à des paysans retraités. Et il est parti d'un investissement de 10 000 euros. Il dégage un chiffre d'affaires de 102 000 euros. En tout cas, c'était le chiffre de 2016. Terrevivante.org pour les informations. C'est vraiment à lire donc ce dernier numéro de 4 saisons du Jardin Bio. Ghislaine Desmarie, bonjour.
Oui, bonjour.
Ghislaine, vous êtes musicienne, fondatrice du groupe Amuséon, avec Yves, et vous faites la promotion d'une musique traditionnelle en tant que musique actuelle via un instrument qui est typique des Hauts-de-France, le pipasso.
Oui, c'est ça, c'est le nom de la cornemuse des Hauts-de-France et du Hainaut aussi, en Wallonie. Et c'est un petit instrument qui était tombé dans l'oubli. Et comme il est très joli, très sympa, il a un son gai et que artistiquement on a voulu développer quelque chose avec cet instrument, on a créé donc avec la compagnie un festival pour le faire redécouvrir. Ça s'appelle le Festival du Pipasso. Et puis en donnant des cours pour avoir des gens qui le pratiquent et qui en jouent à nouveau. Et ça donne le collectif Les Pipassonneurs.
Ouais. Le festival a lieu à Flixecourt.
Oui, c'est dans la Somme, entre Amiens et la mer.
22, 23 et 24 septembre.
C'est exact. Ouais.
Est-ce qu'on compose aujourd'hui une musique contemporaine avec le pipasso?
Oui, tout à fait. C'est ce que je commets régulièrement.
Ouais. Vous l'enseignez également, Ghislaine?
Et oui. Donc avec deux cours de cornemuse par semaine, un à Mers-les-Bains et un autre à Amiens.
Alors on peut composer aujourd'hui avec cette fameuse cornemuse du pipasso, mais oui. On peut travailler évidemment un répertoire traditionnel, mais est-ce qu'on a encore beaucoup de supports? Est-ce qu'il y a beaucoup d'archives? Est-ce qu'on en retrouve facilement?
Ça c'était un peu la gageur. Bon, nous on a commencé par jouer la musique celtique, oui. C'était la première qui était redécouverte, hein, la plus anciennement portée. Et donc au bout d'un moment on s'est dit mais chez nous il y en a forcément aussi. Et quand on a commencé à parler de ça, dans les Hauts-de-France, le souci qu'il y a, c'est on nous disait mais pauvres gens, vous savez bien, les deux guerres mondiales, tout a brûlé, les bombardements, vous ne retrouverez rien. Et en s'entêtant un petit peu, eh bien, il n'y a pas rien du tout. Il y a même pas mal de choses. Et par contre, c'était, il y avait une discographie complètement inexistante. Donc, il fallait déjà faire la preuve que ça existait. Et ensuite, petit à petit, on voit l'intérêt des gens. Quand on joue à un endroit et qu'on leur dit mais vous savez-vous que cette musique a été collectée, donc là par exemple dernièrement on faisait un bal pour enfants, c'est le bal des Tcholous, et on leur dit savez-vous que ça a été collecté dans votre village Mons-Boubert, donc dans le Vimeux, et on est très contents, il y a les yeux qui brillent et ils sont fiers, ça donne de la fierté aux gens.
Que faites-vous avec le château blanc de Flixecourt?
Alors, le Château Blanc, c'est une des demeures des frères Saints. Alors, les frères Saints, il y a eu donc tout cet empire
industriel.
Tout cet empire industriel, Boussac Saint-Frère, ce qui est décrit dans le film Merci Patron.
Oui.
Il a été vendu, il a connu quelques péripéties. En 1990, il a été revendu et actuellement, ils sont hébergés une soixantaine d'adultes handicapés mentaux. Mmh. Et comme ce lieu est vaste, il dispose de belles salles, dont une salle de spectacle, la compagnie Amuséon y est en résidence de création artistique. Et on a proposé à la direction de les intégrer à notre fanfare. Et donc, actuellement, on est en train de faire des ateliers de musique avec eux, des ateliers de percussion, de chant, de déplacement, et de les intégrer à un groupe d'adultes déjà constitué.
Voilà, action de solidarité avec Amuséon. Le site, c'est amuséon.fr. Il y a une page Facebook. Et puis, n'oubliez pas donc le festival 22, 23, 24 septembre à Flixecourt. Merci, Ghislaine.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. La semaine prochaine, changement de région, direction la Nouvelle-Aquitaine, et on commence par la Charente-Maritime. Merci à Juliette Gou qui réalisait les carnets, Joël Levert qui leur apportait le contenu, et Guillaume Roux aujourd'hui, le contenant.